Merci à toutes et tous, voilà, pour cette dernière session avant la discussion finale. Donc cette dernière session, mais d'une certaine manière, voilà, toutes ces sessions qui se suivent sont aussi le reflet de la diversité des objets, des objets de recherche de Sylviane Dolberg. Donc c'est aussi le reflet d'une carrière particulièrement riche et dense. Et la dernière session va porter sur une thématique qui est la thématique des aires culturelles, avec le choix qui a été fait de se concentrer sur une aire culturelle en particulier, qui est l'aire culturelle, alors qu'on pourrait qualifier russe, russophone. Je laisserai aux intervenants le soin. Pardon ?
Un peu plus depuis 2 ans.
Un peu plus, alors ukrainophone, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, sur cette ère de l'Europe orientale, pour ouvrir, et qui fait évidemment écho à un certain nombre de travaux de Sylviane Goldberg, je pense notamment tout ce qui tourne autour de Shulamansky, mais il y a évidemment d'autres travaux. Je vais d'abord laisser la parole donc à Vladimir Berilovitch. Comme vous avez compris, on est repassé de l'anglais au français. Peut-être qu'on repassera au russe, mais je ne sais pas en tout cas. Mais en tout cas, voilà, au moins en français. Donc, Vladimir Berilovitch, qui est directeur d'études honoraire à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est spécialiste de l'histoire de l'école russe et soviétique au XXe siècle, qui est plus largement spécialiste de l'historiographie russe et qui nous parler des études comment vous l'avez formulé dans l'espace post-soviétique. Voilà. Et puis donc après, comme vous avez compris, donc je laisserai la parole aux deux discutants, Claire Le Foll et Thomas Chopard. Donc Claire Le Foll, qui est maîtresse de conférences à Southampton, professeur à Southampton. Thomas Chopard, qui lui est maître de conférences à l'EHESS.
Merci beaucoup. Merci à Mathias et à David de m'avoir invité et d'avoir l'honneur de parler dans un environnement beaucoup plus savant que moi, même pour ce qui concerne l'Europe de l'Est, car c'est vraiment à Sylviane Goldberg à laquelle je rends un grand hommage et je remanifeste mes sentiments d'amitié à ses anciens déjà. Qui m'a suggéré d'ouvrir un séminaire justement consacré à cet espace. Donc, ça a été une partie, je crois, pas négligeable sans doute, des études juives à l'école. Donc, vous disiez quel mot employer. Alors, il y a déjà 2 obstacles, en effet. Pour le français, j'aime bien études juives. Alors, lorsqu'on dit histoire, est-ce qu'il faut dire histoire juive ou historiographie juive ou historiographie ou histoire des juifs? Ce sont des questions qui sont pas si faciles que ça à régler. Alors, les Russes, pas seulement les Russes, les Ukrainiens aussi, emploient un mot tout à fait russe, c'est judaïka. Donc, comme ça, ils sont tranquilles. Et l'autre problème, c'est, qui vient d'être suggéré, c'est le mot russe. Et évidemment, étant donné que j'appartenais, puisque je suis retraité, au centre d'études, etc. Je préfère m'arrêter parce que je ne connais même plus le nom actuel, mais il s'appelait du monde russe, et c'est une expression qu'il a fallu bannir, non seulement pour le nom d'un centre, mais aussi pour le titre d'une revue, tout simplement parce que en Russie, depuis plusieurs années, et déjà bien avant la guerre d'Ukraine, l'expression « monde russe » est capable de faire fuir toute personne décente, étant donné qu'elle fait partie de la propagande officielle russe. Je glisse sur le sens de cette expression. Donc, ce n'est vraiment pas employé actuellement. Alors, ce n'est pas du tout notre sujet. Et donc, ce séminaire auquel j'ai eu énormément plaisir de participer et auquel j'ai beaucoup appris, nous a ouvert un monde qui a, à ce moment-là, s'est ouvert justement en Europe de l'Est. Bon, théoriquement, Europe de l'Est, ça veut dire Pologne et ex-URSS et ex-URSS. Et Sylviane Goldberg a été, on peut dire, aux premières loges, même dans le monde, mais en France, en tout cas, c'est tout à fait évident, pour cette ouverture, puisqu'elle a été rapidement intéressée et partie prenante dans l'accès à aux archives, aux chercheurs, aux centres, tout ce qui se créait, je dirais, évidemment à partir de 1991, mais encore avant, dès 1989. Alors c'est pourquoi je vais faire une espèce de petit panorama de ces études juives vues sous l'angle de l'histoire, l'historiographie, justement, dans cette période, c'est-à-dire, on peut dire en gros, grosso modo, les années 80, enfin à partir de 84-85, ce n'est pas de l'histoire politique, j'expliquerai pourquoi je prends ces années-là, et grosso modo, disons, jusqu'à la fin de l'année 2021, ce qui se passe actuellement depuis, je ne peux même pas en parler parce que je ne le sais pas. J'ai perdu trop de contacts et je ne peux pas dire exactement ce qui se fait dans cet espace du côté russe. Quant à l'Ukraine et les autres, c'est aussi encore une autre question. Alors, donc, une petite, très légère introduction pour rappeler ce qu'ont signifié pour les études juives la chute du régime communiste et l'éclatement de l'URSS, et en particulier dans l'historiographie. Alors, je le rappelle, c'est très connu de tout le monde, mais je le rappelle quand même, parce qu'on ne se rend pas forcément compte et on oublie le poids que ça a été, Dans l'ex-URSS, voilà ce que je dis, plutôt que parler d'aussi, dans l'ex-URSS, ça a été le lavé d'un quasi-interdit sur les études juives, y compris historiques. Et quand je dis interdit, c'est vraiment interdit. Donc, on pouvait faire que de l'histoire juive ou des études juives, que quasi clandestinement, sans être poursuivi forcément, mais en tout cas, pas dans une institution normale, dans des revues normales. Ça, c'était une règle qu'on peut observer jusqu'aux années 80. Deuxièmement, toujours en URSS, l'ouverture, qu'est-ce qui se passe à partir de, disons, 89? Mais ça, c'est plutôt 91. Ouverture des archives, quasi totale pour la période impériale, c'est-à-dire, pour ce qui nous intéresse, 18e, 19e siècle jusqu'en 2017, et avec des restrictions pour la période soviétique, qui ont été moins ouvertes, surtout pour certains domaines. Je glisse, on n'a pas le temps, mais je peux toujours revenir là-dessus, sur quels domaines étaient plus fermés que d'autres. Et ces archives étaient fermées non seulement pour les chercheurs étrangers, bien évidemment, mais même soviétiques. Alors que les chercheurs soviétiques pouvaient avoir accès à d'autres archives pour certains sujets sur d'autres périodes, mais pas là-dessus. Le troisième point, non des moindres, c'est le début d'une circulation et d'échanges entre, d'une part, les chercheurs et les institutions qui se sont créées ou qui existaient déjà dans l'ex-URSS, enfin je dis ex à partir de 91, donc Russie, Ukraine, Biélorussie, pays baltes pour parler de l'essentiel, et d'autre part le monde occidental, surtout le monde universitaire américain et israélien, mais aussi britannique, allemand et français. Et donc ces changements, en quelque sorte, factuels et matériels, se sont accompagnés sur le plan intellectuel aussi, d'un changement très important qui, pour le côté post-soviétique, a été l'abandon de tous les schémas de pensée officiels, dits marxistes-léninistes. Cela s'est fait avec une rapidité surprenante vraiment pour tout le monde. C'est vraiment comme un château de cartes qui s'était écroulé. Mais pour tout le monde, c'est-à-dire ex-soviétiques ou occidentaux, il y a eu, vous pouvez pas dire, une prise de conscience très importante pour notre sujet. D'abord, on a pris conscience du fait que les études de l'empire multiethnique et multiconfessionnel russe, en tant qu'empire, avaient été, selon les cas, rares, inexistantes ou fortement biaisées. Ça se comptait réellement sur les doigts des deux mains. De sorte que les études historiques touchant à l'administration, à la vie de l'Empire, la gestion des conquêtes et, à plus forte raison, de l'URSS, ont suscité un intérêt quasi subi, général et croissant. Il faut noter d'ailleurs que ce mouvement, qui était une véritable explosion d'études et qui s'est poursuivi pendant 20-30 ans quand même, ce mouvement a été en gros synchrone avec la vague des études postcoloniales, avec l'intérêt général suscité par l'histoire des empires. C'est une coïncidence, mais c'est une coïncidence tout à fait frappante et intéressante. Le deuxième point, toujours dans ce bouleversement intellectuel, c'est que l'historiographie juive de l'espace impérial et soviétique, qui avait été inexistante en URSS depuis les années 30, assez biaisée de 17 à 20, 29, à peu près, 28-29, quand je dis assez, c'est même plus que biaisé, elle a été, même avant, elle était dans une certaine mesure embryonnaire, parce qu'on pense à un grand nom qui était Dubnov, qui a écrit une histoire du peuple juif, plusieurs noms qu'on peut citer aussi moins connus, notamment Julius Hessen, Orshansky, bon, pas beaucoup d'autres d'ailleurs, et que cette vision d'ensemble, cette ambition d'une vision d'ensemble, a été complètement tronçonnée. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, on commençait seulement à aborder des études juives, et ce qui s'est passé dans les années 20 les a quasi interrompus, ou en tout cas les a tronçonnés. Et la même chose s'est produite du côté occidental, car on peut s'apercevoir que, pour ce qui est de l'historiographie, c'est vraiment la période soviétique qui a attiré le plus de suffrages, peut-on dire, pour des raisons à la fois politiques, financières, financement des projets aux États-Unis, etc. La chute de tout cela a fait que on a pu très rapidement, c'est très frappant du côté russe, par exemple, lorsqu'on voit les premières publications, c'est même dans un petit article, ils essayent de voir plus loin et plus large, tout de suite. C'est quelque chose de frappant. Alors évidemment, c'est très embryonnaire, mais c'est quelque chose qu'on voit très naturellement se produire, parce que c'est comme si on avait des chevaux qui avançaient avant avec des œillères telles qu'ils n'essayaient même pas de regarder où que ce soit. Donc les œillères sont tombées et ça a changé. Et on peut donc ces tentatives ou ces premiers essais de recollage, on peut les observer aussi pour disons ce qu'on peut appeler l'enclavement de l'historiographie juive de l'Empire russe et de l'URSS. Hein, pour toute cette période, depuis le partage de la Pologne, premier partage jusqu'au XXe siècle, et déjà des tentatives, ou en tout cas une vision qu'on voit beaucoup plus chez les Occidentaux, parce qu'ils ont souvent grandi là-dedans, justement, une vision des études juives en général et du monde juif en général. Maintenant, quelques traits généraux de ces productions historiographiques sur 25 ans, et je précise tout de suite que c'est évidemment pas ni exhaustif, et c'est très parcellaire et même subjectif. Alors, la première chose à dire, c'est que ça a été une véritable ruée, c'est-à-dire de façon générale. Lorsque les archives se sont ouvertes et qu'on a pu circuler librement, c'était une véritable bousculade pour savoir qui allait travailler dans telles archives et qui sera le premier. Et il y avait même une concurrence tout à fait évidente qui s'était établie dans ces domaines-là. Et du côté ex-soviétique, on peut observer quelque chose qui est très frappant et je dirais même touchant. C'était l'impression que les petits centres, plutôt cercles, hein, comme des petits grumeaux d'études juives qui avaient existé dans les années 80, sur le plan individuel ou poly-individuel, c'était quelques individus, par-ci, par-là, surtout pour ce que je connaissais, Saint-Pétersbourg et Moscou, ces gens ont voulu reprendre un peu les études où on les avait laissées en 1917 ou, à la rigueur, en 1929. C'est-à-dire reprendre les choses au point exact où on les avait laissées, avec parfois les mêmes thématiques et même les mêmes noms. Il y a des associations et des musées qui ont pris les mêmes noms, etc. C'est un phénomène qu'on observe de façon générale, d'ailleurs, pour l'ensemble de cet espace en 1991 et au-delà. Alors, naturellement, les travaux sur archives ont immédiatement cru en nombre, alors que de 1930 aux années 80, seules les archives localisées dans les pays occidentaux, mais elles n'étaient pas négligeables, bon, vous pensez au YIVO, etc., donc aux États-Unis, en Israël, à Amsterdam, etc., étaient utilisées. Mais bien sûr, ces archives ne donnaient lieu qu'à des visions parcellaires et empêchait d'aborder de front certaines grandes questions que je vais évoquer plus tard. Le libre accès aux dépôts d'archives a provoqué dans les études juives, comme pour l'ensemble de l'historiographie, en Russie, en Ukraine et ailleurs, et souvent en collaboration avec des institutions et des chercheurs israéliens et américains, surtout, une vague de publications de guides d'archives, assez remarquable d'ailleurs, c'est une tradition qu'on voit dans l'espace ex-soviétique, on voyait, c'était non pas publier des inventaires d'archives, tout ça est dépassé maintenant parce que normalement ça, on peut les voir en ligne, mais de publier une sorte de guide d'archives qui décrivent un peu tout ce qu'il y a dedans, le type de document, etc. Alors quand c'est général, ce n'est pas très utile parce que en quelques pages, dire ce qu'il y a dans les archives du ministère de l'Intérieur, ce n'est pas très, très formidable et on peut deviner d'avance d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Mais en revanche, quand il s'agit de sujets touchant à l'historiographie juive, ça, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent. Surtout quand il y a 4 volumes, comme par exemple la description des archives de Saint-Pétersbourg. Mais il n'y avait pas que les guides, il y avait aussi des recueils de documents. Grande mode qui s'est maintenue pendant 10, 20 ans, au-delà. Pas tellement, et qui aujourd'hui peut être précieuse, on en parlait tout à l'heure avec ma collègue Claire Le Foll, parce que pour les Occidentaux, ça peut servir de substitut à l'accès aux archives qui se ferment. Or, les archives des grandes villes de l'ancienne URSS sont d'une grande richesse quantitative et sans doute qualitative. Concernant les archives de l'État impérial, mis à part les institutions qui étaient spécialement consacrées à l'administration des populations juives, et ça c'est très précieux, parce qu'on a des bureaux et des administrations qui travaillaient spécialement sur les juifs, et notamment les comités ad hoc, qui, à partir du milieu du 19e siècle, se sont succédés à peu près de façon ininterrompue jusqu'à la chute de l'Ancien Régime. Pour la période soviétique, on a des équivalents qui sont les sections juives du comité central et d'autres choses de ce genre. Donc, lorsqu'on a des archives de tout ça, eh bien, c'est évidemment très riche et ça peut éviter de chercher ailleurs. Mais ailleurs, et c'est là que le bât blesse, c'est que tout ce qui concerne les Juifs, comme pour d'autres pays évidemment, c'est noyé dans une très grosse documentation, les correspondances, les enquêtes, etc., les rapports, tout ce qui relève de l'administration et que donc il faut chercher la population juive dans cet océan. Même chose, bien sûr, pour la période soviétique. Les archives policières, celles de l'Okhrana, sont très riches en raison de la surveillance dont ont fait l'objet des communautés juives et même les individus, y compris hors la zone de résidence. Il faut savoir, par exemple, que, en tout cas, les archives de l'Okhrana n'ont pas toutes disparu, parce qu'il y a une partie qui a brûlé, mais c'est la police politique sous l'Ancien Régime. Mais il faut savoir, par exemple, que les Juifs faisaient l'objet d'une surveillance particulière. Alors, je ne l'ai pas trouvé, peut-être c'est connu par quelqu'un, à partir de quelle date c'était le cas, mais en tant que Juifs, même s'ils n'avaient aucun dossier politique derrière eux. Ce qui fait que dans l'énorme fichier de l'Okhrana qui existe encore, qui se trouve à Moscou, vous pouvez trouver des fiches où est mentionné un Juif, parce qu'il est sorti à l'étranger. On dit le juif, un tel, est parti pour Berlin à telle date, et ainsi de suite, sans aucune raison autre. Parce que s'il y avait une fiche, et s'il y avait un rapport sur lui, sur le plan politique, on le saurait. Ça serait dans le même fichier. Donc, et ça a été confirmé par pas mal de chercheurs, on a ce genre de choses. Et donc, cette surveillance, bien sûr, nous donne beaucoup de sources. Et il en va de même, bien sûr, pour les archives provinciales, je vais aller un peu plus vite, c'est-à-dire notamment tout ce qui touche à la zone de résidence, c'est-à-dire Ukraine, Biélorussie essentiellement, où il y avait 10%, 12%, 15% de la population juive, parfois pour certaines régions, et de même pour certaines grandes villes. Et par conséquent, ces archives sont vraiment très, très riches, en tout cas sur le plan quantitatif. En revanche, les archives des communautés sont plus rares, plus fragmentées, et surtout depuis la suppression des Karaïm en 1844, ce qui fait que depuis, les contacts entre les communautés juives et les organes administratifs provinciaux ou centraux passaient par des correspondances qui peuvent être disséminés dans toutes sortes d'endroits, mais qui ne sont pas concentrés dans des dossiers particuliers. Autre caractéristique de ces études, c'est que par la suite de la quête d'identité que j'ai mentionnée plus haut, parfois en raison de circonstances géographiques et autres, la localisation des sources, des traditions qui se sont quand même maintenues depuis les années 20 ici et là, par exemple à Saint-Pétersbourg, c'est assez net. La situation qui régnait dans les universités et les instituts, par exemple l'Institut d'ethnographie à Moscou était un lieu réputé relativement libre pour les études. Il y a eu, à partir de l'Institut d'ethnographie, et contrairement aux instituts d'histoire qui étaient complètement tenus, et férocement tenus même, et donc surveillés sur le plan politique, il y a eu un engouement, enfin on peut dire un renouveau des études juives qui a commencé par ce qu'on appelait là-bas l'ethnographie, c'est-à-dire l'ethnologie ou l'anthropologie. Ce qui fait, et ça nous ramène un peu au sujet de Sylviane, non seulement dans ses approches interdisciplinaires, mais aussi pour les collègues qu'elle a rencontrés, notamment à Saint-Pétersbourg, ce qui a fait des études qui étaient finalement dont les frontières disciplinaires étaient assez ténues. Alors bien sûr, ça a été par exemple les enquêtes sur les cimetières, etc. Mais aussi, par exemple, des personnes comme Krupnik ou Tchlenov à Moscou, qui étaient des ethnographes, toujours entre guillemets, et qui avaient, dès 1980 ou 82, donc avant la chute du régime, commencé à se regrouper pour parallèlement à leurs études ethnographiques, parce que, par exemple, Krupnik était spécialiste des petits peuples du Grand Nord et de la Sibérie, donc ça, rien à voir avec les études juives, bien sûr, à commencer quelque chose. Et c'est pourquoi, dans les premières publications, on trouve leur empreinte de façon assez forte. Alors, autre caractéristique, c'est que les recherches historiques, surtout sur la période impériale, ont été marquées par des travaux occidentaux très novateurs, à forte problématique, j'en reparlerai tout à l'heure, et sur la base d'un vaste travail documentaire. Or, alors qu'elles étaient encore rares jusqu'à la fin des années 70, en tout cas pour la période impériale, et surtout, comme je disais, consacré à la période soviétique, ils ont commencé à se multiplier dès le début des années 80, et surtout à partir de 84-85, alors même que les archives russes, de l'Empire russe, de l'URSS, étaient encore fermées. Et bien sûr, donc parallèlement à l'ère Gorbatchev. Alors pourquoi? Eh bien, c'est une question que je laisse ouverte, parce que je n'ai pas de réponse, mais il me semble qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. C'est d'abord les changements politiques malgré tout, on a vu s'opérer dans cette zone, et surtout peut-être la montée des études juives dans les universités américaines qui a été peut-être assez forte dans ces décennies. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut observer, ce qui fait que de très très bons historiens anglo-saxons du monde juif, par exemple Clear, Zipperstein, etc., ont commencé leurs travaux avant d'avoir accès aux archives. Clear, par exemple, c'est intéressant, a publié son livre d'abord en anglais « Russia gave us her Jews » au sujet des Juifs à partir du premier partage de la Pologne jusqu'au début du règne d'Alexandre Ier. Et il a fait une réédition en russe, traduction en russe, où il a utilisé des archives, ce qui fait que si on peut, il vaut mieux lire la deuxième version, parce qu'il s'est pas mal investi dans les archives pendant cette période. Et donc, ça aussi, c'est tout à fait intéressant. À la toute fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on a eu, pas mal de chercheurs occidentaux, anglo-saxons, israéliens, allemands, français, qui ont travaillé de plus en plus systématiquement dans les archives centrales et provinciales. Et contrairement aux autres domaines de l'historiographie post-soviétique, cependant, et notamment russe, où la situation s'est rééquilibrée, c'est-à-dire que, en gros, on peut dire que les bons livres, c'est un jugement de valeur, il ne faut peut-être pas trop employer, mais je vais quand même l'employer, les livres vraiment intéressants, en tout cas du point de vue de leur problématique, sur l'histoire russe, soviétique, donc de l'Empire, etc., c'était anglo-saxon par la force des choses. et que les travaux russes étaient souvent utilisés comme une source et non pas comme l'ouverture d'une problématique. Je caricature un petit peu, mais c'est quand même vrai. Et on peut dire que après 91 et jusqu'aux années récentes, la situation s'est non seulement rééquilibrée, mais peut-être inversée. C'est-à-dire que les meilleurs travaux ont commencé à venir de ces espaces. Eh bien, on peut dire que pour l'historiographie juive, on n'en est pas venu jusque-là, dans cette période. Et il me semble que les travaux occidentaux ont continué à dominer le champ, au moins sur le plan intellectuel. Alors, je vais énumérer il faut que j'aille beaucoup plus vite que cela. Je vais quand même énumérer très très rapidement les quelques sujets, les grands sujets qui ont été étudiés dans cette période-là, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Alors, comme autrefois, je dirais, l'historiographie la plus courante était centrée sur l'étude de la politique impériale pour la période impériale et soviétique pour la période soviétique. Et contrairement à ce qui naissait sous l'Ancien Régime, déjà, justement dans des travaux qui intéressaient Sylviane Goldberg, l'histoire des communautés juives, par la force des choses, restait dans l'ombre. Et à plus forte raison, des choses plus fines. Donc, ce qui fait qu'on avait deux visions globales, celle de l'Ancien Régime suivi du régime soviétique et du monde juif comme un monde figé dans une certaine mesure dans son archaïsme et sa tradition et peu différencié. Alors, les recherches récentes ont considérablement renouvelé le sujet. D'abord, pour ce qui est de la politique des gouvernements successifs, on est sorti de ce qu'on peut appeler l'analyse du recueil complet des lois russes en 60 volumes, je ne sais plus combien, qui était le pain quotidien des historiens d'autrefois, et on s'est commencé à analyser réellement la chair de cette politique, c'est-à-dire les ressorts, les motivations, qu'on a essayé de différencier selon les périodes de cette politique, la pression des groupes sociaux russes, comme les marchands, par exemple, au XVIIIe siècle, les craintes des mouvements radicaux religieux et socialistes, l'application de cette politique. Et de façon générale, plusieurs auteurs ont pris à bras-le-corps, d'une certaine façon, non pas comme une utilisation d'une chose évidente, mais comme quelque chose à analyser, l'apparition et le destin de la question juive, qui est devenue réellement absolument lancinante dans les années 1870 et qui n'a fait que monter jusqu'à l'Ancien Régime. J'ai une anecdote que je peux mentionner, mais c'est pas une anecdote, c'est réel. Lorsqu'en 1905, le comte Ivan Tolstoï vient voir le nouveau Premier ministre, donc c'est juste après la Révolution, Vité, il lui donne qu'il invite à devenir ministre de l'Éducation nationale. Ivan Tolstoï, qui n'a rien à voir avec l'écrivain, met comme condition non pas l'ouverture immédiate et totale des universités et de l'enseignement supérieur aux Juifs, mais il le prévient qu'il fera tout dans ce sens-là et que c'est ça la condition. Ce qui est tout à fait extraordinaire parce que l'éducation nationale, la question numéro un, n'était pas forcément celle des Juifs en 1905. Et donc, ça a été plus ou moins accepté. Et chose encore plus étonnante, il a soumis pratiquement le même discours à Nicolas II, quelques temps après. Donc, pour vous dire que cet exemple montre que les historiens qui se sont intéressés à cela ont tout à fait ouvert un champ qui est encore loin d'être fermé, c'est-à-dire le poids et l'implication de la question juive dans l'ensemble de l'histoire de l'Empire russe. Plus compliqué, et beaucoup plus compliqué, mais courageux et intéressant, c'était les travaux, encore assez rares, sur l'opinion sur la question juive, si on peut parler d'opinion. Parce qu'on se bornait, et c'est assez normal, à étudier, à la suite de plusieurs historiens, notamment Hans Rogger, l'extrême droite russe, telle qu'elle est apparue, surtout après 1905, bien sûr, de façon cristallisée, et les pogroms. Donc ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, et surtout depuis 81-82. Et donc, l'antisémitisme dans ses manifestations les plus brutales, les plus violentes, au moins verbalement et réellement. Alors, il y a eu un travail énorme qui a été fait par Clear, de nouveau, John Clear, sur l'opinion, sur la base d'une énorme presse, enfin tout, il y a pratiquement tout lu, de 1855 environ, jusqu'en 1881. Ça, c'est un des travaux pionniers. Et l'image qui en sort, évidemment, beaucoup plus nuancée, compliquée et intéressante que que ce qu'on pouvait s'en faire avant. L'histoire des communautés juives dans la zone de résidence, mais aussi ailleurs, par exemple Saint-Pétersbourg, Odessa, qui a monté, et que c'était vraiment tout à fait nouveau, du plus général au plus local. Et Claire Le Foll, par exemple, est un bon exemple d'une vaste zone, puisqu'il s'agit de la Biélorussie, qu'elle a étudiée sur une longue période. Et alors, ce qui a changé énormément, c'est que ces communautés ont été bien davantage qu'autrefois considérées dans leur division et leur fragmentation, c'est parfois des termes qui sont employés. On peut dire que, paradoxalement, on a renoué un petit peu avec les années 20, 1920, lorsqu'on étudiait la lutte des classes et la segmentation du monde des communautés. Mais ça, c'était vu évidemment dans une optique qui était assez biaisée idéologiquement. Et donc, les historiens maintenant s'interrogent sur les facteurs internes et externes qui ont conduit à cette fragmentation des communautés. Le troisième thème, ou quatrième, je ne sais plus où j'en suis, c'est ce que l'historien Benjamin Nathans a appelé l'émancipation sélective et, toujours dans la même idée, la différenciation du monde juif. Mais cette fois, pas seulement ou pas tellement dans les communautés, mais dans l'ensemble, et surtout dans cette émancipation, c'est-à-dire l'apparition de toute une population bénéficiait d'une très relative émancipation et essayant d'embrasser l'ensemble, le spectre qui apparaît dans ces différentes stratégies. La même chose, mais d'une façon plus localisée, a été faite sur la ville d'Odessa dans déjà plusieurs travaux. Ville d'Odessa qui, dans la hiérarchie, disons, traditionnelle du monde juif, n'occupait pas du tout la même place, la première place, parce que c'était une ville récente et moderne, mais qui, de ce point de vue, devenait tout à fait intéressante. Et là, on a, des études d'histoire sociale et en même temps identitaire tout à fait passionnante, puisque c'est réellement un ensemble qu'on veut saisir. Alors, je vais glisser sur ces différents sujets et ça ne fait rien. Mais pour dire que je n'ai pas oublié ces sujets-là, peut-être qu'on peut y revenir et très brièvement. Il y a bien sûr les violences antisémites qui ont été très, très renouvelées, non seulement dans l'analyse des pogroms et de leurs acteurs, de leur inspiration, de la réaction des autorités ou de leur implication historiographique qui a évolué et qui continue d'évoluer même encore aujourd'hui. Il y a des articles qui sont publiés là-dessus. Mais aussi dans les violences consécutives à la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, avec les déplacements de population, les pogroms et les terribles massacres jusqu'en 1920. Donc Thomas Chepard a consacré une thèse à ces sujets-là. Mais bien sûr, il y a d'autres travaux, et ça, c'est des sujets qui sont réellement tout à fait nouveaux. Alors, je voulais juste m'arrêter, s'il y a peut-être 3-4 minutes, à trois problématiques qui me semblent particulièrement riches dans tous ces travaux, puisque je n'ai fait que les énumérer. La première, c'est de rappeler que, en quelque sorte, cette zone était presque une zone blanche qu'on découvrait progressivement au XIXe siècle, mais que sur le plan des sciences sociales, c'est-à-dire de l'ethnographie au sens russe du mot et de l'histoire, on attendait en quelque sorte que cette zone se réveille et rééquilibre la vision qu'on avait du monde juif, étant donné qu'on avait plus de 5 millions de juifs dans l'Empire russe, Pologne comprise, plus vous ajoutez 2 millions à peu près en Galicie, donc dans l'Empire austro-hongrois, et il reste 1,5 million à peu près pour le reste de l'Europe centrale et occidentale. Et donc, ne serait-ce que statistiquement, on voit le poids que cette zone représentait. Alors, la première chose, c'est qu'on a cherché, des historiens ont essayé de penser s'il y avait une spécificité russe dans l'histoire politique, culturelle et sociale de cette zone. Pour ce qui est de l'histoire politique, on a affiné l'analyse de telle façon que on a essayé de comprendre en quoi l'histoire de l'Empire peut être différente des autres, étant donné que les outils principaux, les procédés, c'est-à-dire restrictions, zones de résidence, localisation, empêchement de circuler, fermeture de certaines professions et fermeture de l'accès à certains types d'enseignement, tout cela a existé ou existait ailleurs et que la Russie était, disait-on, simplement attardée. C'est donc des images qu'on retrouve très fréquemment. Masaryk disait que la Russie était l'enfance de l'Europe, et on était encore à l'enfance de l'Europe. Ça donne assez bien une image de ce que ça pouvait signifier. Et les spécificités qui sont assez particulières en Russie, c'est l'imbrication extraordinaire entre une société qui a été construite pour ce qu'elle était, c'est-à-dire des réalités sociales, et une sorte d'ingénierie sociale. C'est des mots qu'on a souvent employés en parlant de l'Empire et plus encore, bien sûr, de l'URSS, qui ont donné une société d'ordre, mais qui ne ressemblait pas réellement complètement, ou en tout cas pas complètement, à ce qu'on voyait ailleurs. En russe, ça s'appelle soslovie. Donc, ça veut rien dire du tout, mais ça veut dire un ensemble de lois et de devoirs et de droits qui s'assimilent à des statuts sans que ces statuts soient forcément complètement écrits et en tout cas qui sont été le fruit d'une sorte d'empilement de lois à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Et en ce qui concerne les Juifs, c'est particulièrement criant et puissant, puisque la catégorie, l'ordre des Juifs, qui est un ordre social, est en même temps défini par la confession, c'est-à-dire qu'on cesse d'appartenir à cet ordre si on se convertit. Ça, c'était le cas sous l'Ancien Régime. C'était une particularité très forte qui nous fait penser, évidemment, à d'autres domaines européens, bien entendu, mais dans le contexte de l'Empire russe, a fait dire à un historien, c'est Andreas Kappeler, que la question juive représente dans cet ensemble multiethnique et multiconfessionnel le cas le plus, presque le cas témoin, où le système a atteint un tel paroxysme qu'il est parlant pour l'ensemble de l'Empire. En somme, et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être, effectivement, cette question juive était aussi importante à la fin de l'Ancien Régime comme une question clé à résoudre. Et on peut dire même encore, en poussant un peu plus loin, que dans la période soviétique, cette étrange émancipation qui, sous certains rapports avant octobre 17, ressemble bien sûr à ce qui s'est passé sous la Révolution française et Napoléon, dans la période soviétique, finalement réalise de nouveau à peu près ce qui a été fait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'avec l'interdit quasi total sur la religion et l'hébreu, nous avons obtenu quelque chose, c'est-à-dire l'accession possible pour les Juifs, immédiate, à l'absence de droit de l'ensemble des citoyens soviétiques, mais avec une égalité complète avec eux. C'est ça, finalement, l'émancipation, qui a été tellement forte qu'elle a effectivement effacé, en quelque sorte, la tradition. Le deuxième point, c'est l'identité juive. On peut dire que actuellement, on a une vision beaucoup plus nuancée et beaucoup plus ouverte sur les questions identitaires dans cet espace. Je m'arrête là-dessus. Et le troisième point, je l'ai déjà évoqué, c'est les questions de chronologie. La chronologie de cette histoire est différente des autres pour ce qui est de l'Empire et de l'URSS. Et le cas soviétique, c'est-à-dire l'histoire de l'URSS, est là pour nous le prouver. Elle ne ressemble à nul autre. Puisque nous avons une émancipation totale sur le plan des droits ou des non-droits, puisqu'ils sont assimilés à tout le monde, et en même temps une interdiction qui a été la plus forte qu'on ait jamais connue dans tout cet espace, même au XVIIIe siècle, ça n'avait rien à voir, et même dans la période Nicolas Ier. Et donc, voilà un peu les trois points que je voulais aborder, et il me semble que l'apport que cet espace, l'étude de cet espace, peut apporter aux études juives, il nous pousse à la comparaison. C'est le cas, évidemment, de tout historien à partir du moment où il travaille dans quelque domaine que ce soit. Mais ce n'est pas pour rien, je dirais, que ceux qui ont étudié les violences de 18 à 20, par exemple, disaient que ça pouvait préfigurer les persécutions de l'après-guerre, que les restrictions imposées aux Juifs dans l'Ancien Régime font penser à ce qui se passe dans l'entre-deux-guerres en Pologne, par exemple. Et donc, nous avons dans tout cet espace des régressions, des avancées et une histoire suffisamment accidentée pour que nous soyons obligés, en tout cas lorsque nous travaillons sur cet espace, de penser à la longue histoire des Juifs en Europe. Merci, excusez-moi d'avoir dépassé. Hein?
Merci beaucoup, Vladimir Berelovitch, pour cet exposé très, très intéressant, effectivement, avec des points de comparaison possibles avec d'autres espaces. Également, merci pour ce que vous avez dit sur la question des archives. Une petite anecdote personnelle, il me semble que j'avais cherché à un moment donné pour savoir si ma directrice de thèse avait écrit un article sur la question des archives, et j'étais tombé sur un article sur les archives soviétiques, sur l'ouverture des archives soviétiques. Donc voilà, c'est très bien. Et alors, puisqu'on vous parle des directions de thèse, je passe tout de suite la parole sans transition à Claire Le Foll, avec qui je partage donc ce privilège d'avoir été, également doctorant de Sylvie Engelberg, pour une discussion. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à David et Mathias de m'avoir invité. C'est une chance, un privilège. Et merci beaucoup à Vladimir pour un exposé très complet sur le renouveau des études juives dans l'espace post-soviétique. Et mes réflexions, j'en ai essentiellement deux, ne vont faire qu'approfondir quelques aspects abordés par Vladimir et des choses qui me tiennent à cœur et qui ont trait à ma propre spécialité qui est, comme vous l'avez dit, la Biélorussie, donc ce que tu as appelé les provinces.
J'ai dit province. Histoire provinciale.
Bon.
Histoire provinciale. Nous sommes des provinciaux.
Sous l'ancien régime, ce sont des provinces.
Oui, oui, oui. Ah non, je ne sais pas. Et je vais faire quelques remarques qui ont trait à mon expérience aussi d'étudiante et de thésarde à l'EHESS à cette époque. Donc, ce renouveau et cette diversification des objets de recherche, comme tu l'as montré, peut s'expliquer par l'ouverture des archives et par une libéralisation des sociétés post-soviétiques, russes, ukrainiennes et biélorusses essentiellement. Et comme tu l'as expliqué, il y a eu cette bousculade, cette urgence à écrire une histoire nationale, non seulement des républiques, mais aussi juives. Mais je pense qu'on peut aussi placer ce renouveau dans un autre contexte qui est celui d'une rupture plus générale avec ce qu'on a appelé les paradigmes dubnoviens, qui a été identifié par pas mal d'historiens, de Jenna Sanfranco à Benjamin Nelson, en passant par Moshe Rosman également. Donc en gros, Dubnov, qui est le fondateur de l'école historiographique juive est-européenne, et ses successeurs et ses contemporains, il a été extrêmement influent, avait écrit une histoire des juifs, du peuple juif déjà, transgéographique, mondial, global, avait créé un espèce de méta-narratif ou master-narratif qui apportait un ordre et une unité à un chaos de cette histoire juive dispersée et à cette longue durée. De l'histoire des Juifs. Et à partir des années 80, comme tu l'as dit, avant l'ouverture des archives, beaucoup d'historiens anglo-saxons en particulier se sont ont abandonné ce master narratif et se sont concentrés sur des études de cas et sur des études locales, nationales ou thématiques et ont beaucoup utilisé les archives. À l'inverse d'un Dubnow qui avait une vision nationaliste de l'histoire juive et qui analysait le destin des Juifs de manière binaire, selon un schéma qui opposait assimilation et communauté, l'Ouest, les Juifs occidentaux et les Juifs d'Europe de l'Est, qui opposait des forces centrifuges, donc celles qui affaiblissaient et dispersaient les communautés, telles que l'assimilation et l'émancipation, et des forces centripètes qui rassemblaient les communautés et renforçaient la solidarité et la cohérence des communautés, telles que pogrom, persécution. Donc cette nouvelle génération d'historiens, ces historiens révisionnistes, ont analysé beaucoup d'autres facteurs, une pluralité de facteurs, qui, selon eux, avaient façonné et modifié la vie juive et le rapport des juifs aux états dans lesquels ils vivaient et aussi aux autres groupes sociaux et religieux. Donc, tu as cité Benjamin Nathans, qui clairement a complètement changé la manière dont on pensait l'assimilation, comme beaucoup d'autres historiens l'ont fait pour d'autres contextes, le contexte allemand ou le contexte français. Et pour ce qui m'intéresse le plus, Dubnow a aussi essayé de montrer que les juifs russes avait une homogénéité et qui constituait un seul peuple, le peuple juif russe. Et les historiens, à partir des années 80, se sont penchés sur cette diversité et ont montré les contradictions, la pluralité de cette population juive qui habitait dans l'Empire russe. Et tous les différents tournants historiographiques qui se sont succédé dans les années 80, depuis les années 80, en général dans le champ historique, se sont appliqués à l'historiographie des Juifs est-européennes. Donc on a eu une histoire beaucoup plus sociale, une histoire beaucoup plus culturelle, gender studies, le tournant impérial que tu as mentionné, donc post-colonial, un tournant spatial, une histoire économique, histoire des émotions, beaucoup plus tard. Et tout ça a créé des études juives est-européennes beaucoup plus diversifiées, qui sont écrites à la fois dans le monde anglo-saxon essentiellement, mais un peu aussi dans le monde post-soviétique. Et elles ont permis de situer l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est dans un contexte plus large non-juif, en considérant les Juifs comme faisant partie de l'État dans lequel ils habitaient, et une minorité à l'intérieur d'un État multiethnique qui était l'Empire russe. Et en particulier, il y a eu aussi un intérêt de ces chercheurs occidentaux pour les républiques, les provinces et les nouvelles nations qui se formaient après 1991. Donc il y a eu une histoire des Juifs en Ukraine, en Biélorussie, en Lituanie, au Caucase, etc., etc. Et ils ont évidemment beaucoup utilisé les archives, ces historiens. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est que les études juives en France n'ont pas était en reste. Bon, on a bien vu que c'était au début des études juives à l'EHESS et que le cadre créé par l'EHESS pour former des spécialistes de cet art culturel reflétait en fait et renforçait ces changements globaux dans l'historiographie juive est-européenne. En particulier, le séminaire créé par Vladimir et Sylviane et Delphine Bechtel, qui travaille toujours sur la littérature yiddish, mais aussi Claudie Veil, qui travaillait sur le mouvement ouvrier. Toutes ces espèces de perspectives ont participé aussi à cette déconstruction du master narratif, à une reconstruction de cette histoire juive est-européenne, En utilisant beaucoup d'autres angles. Donc, en ajoutant à ce séminaire sur les Juifs de l'Empire russe, le séminaire du Centre d'études juives et les séminaires du Centre du CERSEC, du Centre Est russe et Centre européen du Caucase, ça a vraiment permis à des gens comme moi de se bricoler, parce que c'est un peu du bricolage, c'est un peu différent, je pense, de la manière dont les chercheurs ont été formés aux États-Unis, mais ça m'a permis de bricoler une histoire et de synthétiser moi-même les différents fils qui constituaient cette histoire juive est-européenne et de penser cette histoire des Juifs de l'Europe de l'Est comme faisant partie d'un tout plus large et pour comprendre, permis aussi de comprendre les dynamiques propres et les mécanismes propres à cette histoire juive. Donc cette invitation à mettre en perspective, à utiliser des sources non traditionnelles, à utiliser la littérature, l'art, l'anthropologie, la sociologie, à apprendre des langues, en particulier aussi le russe, le biélorusse, etc., le polonais, à naviguer entre toutes ces différentes échelles, était, je m'en rends compte maintenant, en synchronie exactement avec ce qui se passait ailleurs, aux États-Unis et en Israël, et avec cette nouvelle histoire juive est-européenne révisionniste. Je vais juste finir rapidement avec une dernière réflexion, plus sceptique, on va dire, ou plus interrogative, sur l'étendue ou la profondeur de ce renouveau historiographique décrit par Vladimir. En ce qui concerne le tournant postcolonial ou le tournant décolonial, dans d'autres aires culturelles, en particulier l'ère Mizrahi ou Séfarade et l'Empire français, les historiens se sont mis à penser, il me semble, je ne suis pas une spécialiste, mais ils se sont mis à penser le rapport des Juifs aux non-Juifs de manière triangulaire, en analysant le rôle des Juifs à la fois comme colons et comme colonisés, dans leur relation avec la métropole, mais aussi avec les populations locales. L'invasion de l'Ukraine en 2022 nous a forcés à une réflexion collective sur, et une autocritique, en réalité, de beaucoup d'historiens de l'ère russe qui se sont reprochés, finalement, de ne pas avoir suffisamment décolonisé leur champ et d'avoir continué à approcher cette histoire d'une manière essentiellement russo-centrée. Et je pense qu'on peut faire le même constat en ce qui concerne les études juives est-européennes. Malgré la publication de plusieurs études sur les marges des empires russes et soviétiques, je pense que le paradigme dubnovien n'est pas encore complètement détrôné dans son approche russo-centrée de l'histoire juive est-européenne. On accepte que le facteur régional est important. Il est reconnu comme fondamental pour comprendre ce qui s'est passé pour les juifs est-européens, pour en comprendre l'ampleur et la richesse. Mais les études sur les rapports entre juifs et populations locales, je veux dire les Lituaniens, les Biélorusses, les Ukrainiens, restent assez rares. Et on continue à penser l'histoire juive de cette région essentiellement en référence à la culture russe, au gouvernement russe. Et les formes d'identification et les stratégies individuelles ou collectives non impériales ou anti-impériales restent toujours étudiées de manière très marginale. Et c'est assez frappant dans mon aire de recherche en particulier, la Biélorussie. C'est pas anodin que tous les collègues qui ont fait leur thèse sur la Biélorussie, Elisa Benporat, Arkady Zeltzer, Andrew Sloan, et qui ont vraiment apporté quelque chose et qui se sont précipités dans les archives, qui ont fait un travail magnifique, et ben pour leur deuxième ou troisième livre, ils sont tous revenus à l'histoire juive russe et à une histoire beaucoup plus générale, comme si pour faire carrière et pour devenir un chercheur établi et reconnu, il fallait se détacher de ses études sur les marches et il fallait revenir à une histoire quand même plus centrale et que la Biélorussie et l'Ukraine continuaient à manquer de prestige. Il n'en reste pas moins que les études juives est-européennes telles que bricolées à l'EHESS, grâce à vous deux et plein d'autres, ont offert un environnement propice à ce genre de travaux, en particulier donc grâce au CERSEC et à l'approche très décolonisée du CERSEC et aux travaux pionniers sur les nationalités menés là-bas. Et je pense que mon parcours et celui peut-être de Thomas aussi l'illustre. Donc merci à vous.
J'ai depuis Clara Cole et la transition est toute roulée avec Thomas Chopard, qui est la preuve que tout en travaillant sur l'Ukraine, on peut quand même carrefourier. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est aussi l'occasion de célébrer Sylviane, mais aussi Thomas Chopard est une personne que j'ai rencontrée moi au séminaire recherche en cours, il me semble, de Sylviane Goldberg, quelques autres personnes dans la salle, oui. Notamment je vois dans le fond Michael Gasperoni et David Emano aussi, qu'on a rencontré. Et c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas encore ou suffisamment évoqué, mais aussi cet aspect de fédération dans la jeune génération, plus très jeune maintenant, mais autour de Sylvain Goldberg. Thomas, on va parler plus tard.
Merci beaucoup, Mathias. tu m'as volé le point d'introduction, je suis volé. Et ça a l'air effectivement sur ce séminaire de recherche en cours. Et je comptais vous remercier, toi, c'est David, évidemment, pour avoir organisé cette journée, mais par ailleurs aussi, voilà, pour rappeler qu'on s'était croisés il y a quelques années, bah, là-bas, récemment, disons. Donc, puis, c'était pour remercier Sylviane de nous donner une bonne excuse de nous retrouver tous et toutes aujourd'hui. Je vais essayer d'être rapide, je vous le promets. Je voulais, par ailleurs, je vais désorganiser un peu ma présentation, enfin, mon intervention en faisant écho à ce que vient de dire Claire, mais je pense que c'est très important. Je la rejoins tout à fait sur justement ce rapport parfois compliqué entre les provinces et l'histoire juive. Je ne serais peut-être pas aussi, disons, pessimiste que toi sur le développement des études juives en Ukraine ou Biélorussie, peut-être
Ukraine,
un peu plus.
Bien,
mais bon, pour des raisons politiques aussi. Mais en Ukraine, en tout cas, il y a eu quand même, je pense qu'on peut le dire, une forme de développement très fort des études sur les juifs en général, mais avec quand même une limite que je voulais évoquer d'emblée, c'est qu'au fond, cette histoire, elle s'est beaucoup réorganisée, disons, dans le cadre d'une forme d'instrumentalisation de l'histoire des juifs, dans le cadre d'une histoire nationale qui est celle d'une coexistence plus ou moins heureuse, qui renverrait justement tous les malheurs des juifs ukrainiens, soit sur les Allemands d'un côté, soit sur le pouvoir russe et Moscou de l'autre. Avec cette forme de fiction dont a pu bénéficier l'histoire juive, parce qu'elle a été promue à cette faveur-là, une forme de fiction d'une coexistence, bon, donc je vous laisse juger, mais avec laquelle je suis en léger désaccord, travaillant par ailleurs sur les violences antisémites en Ukraine. Mais ce qui donne quand même à cette histoire des Juifs en Ukraine, pour le dire en des termes très généraux, une coloration parfois assez biaisée, dira-t-on. Mais elle a quand même eu cet avantage que d'aller identifier, c'est là où je rejoins ce qu'évoquait longuement Vladimir pour commencer, c'est-à-dire c'est quand même d'aller identifier des archives, des sources qui sont pléthoriques dans ces régions-là. Je pense que ça a été quand même la grande découverte de ces 30 dernières années, c'est on ne sait plus quoi faire des sources. Elles sont si nombreuses et si intéressantes que parfois on s'y noie. Donc au fond, c'est peut-être deux façons de ne pas se noyer que je voulais évoquer dans mon intervention. La première, je pense, qui s'est beaucoup développée à partir des années 90, c'est une histoire locale, mais qui ne soit pas une histoire de monographie anecdotique de certaines villes ou de certaines bourgades, mais bel et bien une histoire locale qui permette justement de rendre compte de la diversité des archives qui sont dans ces territoires post-soviétiques, organisées vraiment en mode pyramidal, des archives de l'Union, situées à Moscou, aux archives de la République, puis aux archives régionales, et ensuite aux archives de la ville. Et au fond, la focalisation de tout un tas de chercheuses et de chercheurs sur, justement, des monographies locales a permis de rendre compte de cet emboîtement. Je pense que cet emboîtement, il a aussi permis, au fond, de rendre compte de la richesse archivistique, mais aussi d'offrir une histoire sociale beaucoup plus diverse, ça a été évoqué, de rendre compte des conflits politiques, de la diversité sociale, économique. J'ai un peu travaillé sur Kiev pendant les années de la guerre civile et d'essayer de montrer qu'au fond, à partir de l'entrée par l'histoire juive, on pouvait rendre compte de la totalité de l'histoire de la ville de Kiev, depuis la grande réussite économique des Brodsky jusqu'à la misère économique des petits tailleurs du Podio. Enfin, vraiment d'essayer de rendre compte aussi de l'engouement pour le bolchevisme, ou au contraire d'une forme de conservatisme politique, à partir d'archives qui sont aussi à taille humaine, puisque les archives politiques autour de Kiev, c'est quelques dizaines de dossiers, c'est faisable, c'est pas la totalité des archives du Parti communiste, par exemple. C'est aussi, donc, au fond, voilà, une double porte d'entrée qui permet de limiter et d'encadrer le questionnaire historiographique, et qu'on a été nombreux à pratiquer. Donc, limitation géographique par la monographie locale, limitation en termes de population à travers les populations juives pour essayer de rendre compte de phénomènes sociaux qui donc dépassent en fait très largement les juifs. Au risque, par exemple, en le disant, je l'entends bien, justement de gommer en partie parfois la spécificité du sort des juifs, et en tout cas des tendances sociales, politiques qui pouvaient animer les populations juives à ce moment-là. Par ailleurs, en réfléchissant à l'intervention d'aujourd'hui, je repassais dans ma bibliothèque, notamment les œuvres de Sylviane, et c'est vrai que, alors il a été beaucoup question de la clepsydre aujourd'hui, mais pas beaucoup des deux rives du Yabok, dont je voulais quand même l'évoquer. Ouais, c'est son premier ouvrage, je crois, mais qui était déjà à l'époque une préfiguration d'une forme d'histoire locale à partir de cette histoire de la confrérie funéraire de Prague, mais qui aussi essayait de rendre compte, et je pense que j'aurais dû le lire avant le début de ma thèse, on arrive toujours trop tard, d'une forme d'histoire complète, histoire d'une organisation, d'une institution, histoire urbaine de la ville de Prague, histoire de la communauté, histoire culturelle, disons, des pratiques funéraires, des discours sur la mort, qui permettaient aussi déjà, à l'époque, cette forme d'emboîtement. Et je pense que d'une certaine façon, l'ouverture tardive des archives à l'Est n'a fait que rattraper ce retard dans ces formes d'écriture de l'histoire. Cette histoire focalisée, elle avait quand même, me semble-t-il, un pouvoir heuristique extrêmement important. C'est là où je pense que faire de l'histoire des minorités juives en Europe centrale et orientale, c'est ça. Plus de valeur, je le dis en des termes normatifs qui ne sont pas adéquats, mais en tout cas, ça a une valeur extrêmement forte pour essayer justement de faire l'histoire des minorités de façon générale. Vladimir l'a évoqué, j'y reviens pas longuement, mais l'empilement de restrictions qui s'abat sur les populations juives dans l'Empire russe, mais ensuite le nombre de limitations très rapides dont souffrent les populations juives en Union soviétique, la focalisation politique sur la question juive, avec mille guillemets, les moments de violence antisémite au cours des pogroms ou des grandes campagnes antisémites, tout cela fait qu'au fond, ce cas est vraiment une forme de cas paradigmatique qui permet de penser, de réfléchir à la place des minorités dans un empire multiethnique et multilinguistique et multiconfessionnel aussi. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un regret. L'Imperial Turn et tous les chercheuses et les chercheurs qui ont travaillé sur la question des nationalités, comme on l'appelle en Union soviétique, ont souvent manqué, me semble-t-il, de lire l'histoire et les historiens, les historiennes des Juifs d'Union soviétique. Ils auraient peut-être dû les lire plus attentivement pour justement affûter un peu, le constat d'une discrimination de grande ampleur contre les minorités, que ce soit dans l'Empire russe ou en Union soviétique. Par ailleurs, au fond, ce renouvellement très profond des études sur les Juifs d'Union soviétique et de l'ancien Empire russe, ça a aussi permis, me semble-t-il, de renouveler en profondeur l'histoire politique. Le premier mouvement a été de se ruer, me semble-t-il, dans les archives du parti à Moscou. Ça se comprend. Il y a eu un second mouvement qui s'est amorcé peut-être plutôt au mi-temps des années 2000, avec notamment l'ouverture des archives à Kiev, mais ailleurs aussi, je pense à Minsk, au moins pendant une brève période de temps, et ailleurs. Donc, d'aller dans les provinces, bon, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, qui a permis justement de penser des configurations politiques dans cette grande histoire soviétique qui était légèrement différente de celle qu'on pouvait voir à Moscou. Très brièvement pour l'Ukraine, par exemple, le fait que des militants socialistes, des grands groupes, des grands partis politiques socialistes juifs non bolcheviques se sont quand même engagés dans la révolution bolchevique et sont devenus des alliés, au moins dans une brève période de temps, du pouvoir soviétique naissant. Donc d'essayer de montrer comment la soviétisation de tout un tas de territoires ne se faisait pas selon le schéma qu'on pouvait voir à Moscou et comment il tenait aussi sur des acteurs, des courants politiques, des configurations politiques qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et même d'une certaine façon, je pense qu'en montrant ces espèces de bricolages locaux entre militants bolcheviques purs et durs, si je puis dire, ouvriers russes du Donbass par exemple, et des militants juifs plutôt des provinces occidentale de l'Ukraine actuelle, ont montré comment, justement, s'était imposé le pouvoir soviétique et on pouvait renouveler aussi cette approche du parti dans son émergence quand même assez brutale dans l'histoire de la région. Ce qui fait que, par bien des aspects, que ce soit pour l'histoire des minorités, l'histoire des discriminations, l'histoire politique du parti, je pense que, justement, aller vers les marges a permis de mettre en lumière des phénomènes qui passaient en partie inaperçus lorsqu'on se concentrait sur les centres. Ce serait même, en tout cas c'est mon point de vue, j'y tiens assez, c'est qu'au fond, pour bien faire de l'histoire de l'Union soviétique, il vaut mieux aller en Ukraine ou au Bélarus plutôt que de rester à Moscou. Je suis prêt à en discuter, mais j'y tiens mordicus. Le second point que je voulais évoquer beaucoup plus rapidement, promis, dans cette redécouverte archivistique, ça a été aussi la redécouverte, au fond, d'historiens. Je dis historien, mais pas d'historienne malheureusement, mais d'historien aussi, qui a été un peu passé à la trappe dans ces grandes histoires. Je vais en évoquer quelques-uns, qu'à la relecture de l'article de Sylviane paru dans L'Homme sur Hansky, auquel j'ai pensé. Hansky, évidemment, qui a travaillé sur la Première Guerre mondiale et sur la destruction de la Galicie, mais Elias Tcherikover, l'élève de Dubnov, fondateur du comité d'aide aux victimes des pogroms de Kiev et grand historien des pogroms, fondateur du YIVO, de la section historique du YIVO, donc vraiment un des grands penseurs de l'histoire juive et pas uniquement de l'histoire juive, Et dernière figure que je souhaiterais vraiment évoquer très très rapidement, qui est Philip Friedman, lui-même formé dans les universités centre-européennes, à Vienne notamment, mais aussi au Divo, dirigeant de la commission historique juive dans la Pologne après 1945, premier grand historien, un des premiers grands historiens de la Shoah, elle ne s'appelait pas encore la Shoah, avec des publications dès 1945, 46, 47, vraiment extrêmement précoces, et qu'on redécouvre aujourd'hui avec un agenda scientifique qui me paraît en fait toujours autant d'actualité que ce qu'il était à l'époque, et qui s'articulent tous, ces historiens, me semble-t-il, autour d'une idée centrale, c'est que pour repenser l'histoire des persécutions antisémites, il s'agit de faire l'histoire de ces persécutions du point de vue des populations victimes, du point de vue de leurs archives, des archives qu'elles ont produites elles-mêmes, des conséquences à long terme que ces persécutions ont pu avoir, pour se détacher, au moins en partie, de la seule question de la responsabilité politique dans le déclenchement des violences, même si, évidemment, c'est toujours un point à envisager. Par ailleurs, et ce sera vraiment une très brève conclusion, ces différents historiens sont tous un peu, ils ont tous plusieurs cordes à leur arc, si je puis dire. Ils sont tous travailleurs sociaux, militants politiques, historiens, statisticiens, dramaturges, Poransky. Et c'est aussi à l'heure où on dit que parfois, la discipline historique perd un peu ses paradigmes, une façon de repenser justement des formes d'écriture de l'histoire qui sont peut-être impures, ou je ne sais pas comment le dire, en tout cas, voilà, plus bizarre, mais qui en tout cas nous donne aussi à penser des formes d'écriture de l'histoire justement nouvelles, qui passent par l'accumulation de matériaux, par la production de matériaux avec les principaux concernés, et par des formes d'écriture parfois très brèves, parfois vraiment centrées sur les sources, parfois au contraire de grandes synthèses, voilà, beaucoup plus diverses parfois que ce qu'on peut imaginer et qui, je trouve, sont encore aujourd'hui particulièrement inspirantes. Par ailleurs, ce sont des historiens qui se focalisent tous sur des grands événements un peu monstres, la Première Guerre mondiale, les pogroms, la Shoah, mais qui essaient justement d'intégrer ces grands événements, qui sont souvent isolés par l'historiographie, dans une histoire longue des populations juives, et ce qui me semble être là aussi une leçon qu'on peut conserver. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Thomas. Alors, sans plus tarder, proposer à Natalia et Sylviane de venir sur scène.
Je vais juste, parce que je suis tout à l'heure après l'intervention sur le moment Furet la première conférence, Marbloc donnée par Gershon Scholem. Je suis allée chercher le dossier que nous avons sur cette première conférence à la présidence. La première conférence Marbloc, et je ne résiste pas à vous lire, je vais vous montrer tout à l'heure à Sylviane, quelques éléments de la déclaration de Furet pour introduire. Ça va être très rapide, je vous rassure. Je la laisse nous faire voir. Donc, je ne lis pas tout. Hein, donc, c'est la première conférence qui est donnée et qui est donnée chaque année depuis. Je ne vais pas vous présenter le professeur Gershon Scholem. Tout le monde sait ici qu'il est le plus grand spécialiste vivant de l'histoire du judaïsme, puisque c'est lui que vous êtes venu écouter. Ce que je voudrais dire en quelques mots avant de lui donner la parole, c'est pourquoi l'École des études en sciences sociales se sent particulièrement honorée de le recevoir, lui, pour inaugurer la série de ce que nous avons appelé la conférence Marbloc, destinée à donner la parole chaque année à peu près à cette date à un grand spécialiste étranger de ce que nous appelons assez largement les sciences sociales. Je saute les deux paragraphes qui concernent Marbloc. Et c'est ici que je vous rencontre, cher professeur Scholem, d'abord parce que c'est précisément de cette laïcisation du messianisme juif, de l'hérésie sabbatéenne ou post-sabbatéenne, au jacobinisme français dont vous allez nous parler aujourd'hui. Surtout parce que c'est vous, par vos études, vos livres, votre vie de travail, votre immense érudition, qui avez fait revivre cette tradition juive dans son état apparemment le plus étranger au rationalisme européen et pourtant inséparable de lui. C'est vous qui avez ressuscité une culture juive enfouie dans ce qui était devenu depuis le XVIIIe siècle la nuit des temps, c'est-à-dire l'oubli des modernes, ou encore des amnésiques que nous sommes, cette culture dont nous avons redécouvert grâce à vous que c'est une contribution centrale des communautés juives diasporiques à notre histoire. C'est vous qui, à la fameuse question « qu'est-ce qu'un juif ?», avez rendu possible qu'on offre aujourd'hui d'autres éléments de réponse que les incertitudes négatives tirées de la persécution et du malheur. Voilà, pas mal de... Ben voilà, ça boucle la boucle de il me semble... Voilà, mais c'était pas pour... c'était quand même pour laisser parler Sylviane, donc je vais surtout lui lui lancer des perches pour lui parler. J'avais commencé justement dans ce questionnement qu'on avait autour de historien du judaïsme, historien des étés juifs, on va y revenir. J'avais eu la curiosité, et je vais y arriver, de chercher Sylviane Goldberg dans Google. Et je me suis dit, historienne du judaïsme, historien des juifs, historienne tout court. Et j'ai trouvé Sylviane Goldberg, encyclopédiste. Et donc, j'imagine, en raison du dictionnaire encyclopédique du judaïsme que tu as dirigé en 93, qui a été ma bible hein, pendant ma maîtrise et au-delà, mais pour moi, évidemment, qui suis historienne moderniste, évidemment, encyclopédiste, c'est tout un bohème. Voilà. Je voulais quand même, parce que Claire et Mathias en ont parlé, évidemment, Sylviane, directrice de thèse. Moi aussi, leur première intervention, c'était aux recherches en cours. Et après, donc, Sylviane m'a poussée à présenter une conférence complémentaire à présenter. Donc voilà, j'étais pas en poste avant d'être maître de conférence. Enfin, je vais pas tout raconter notre vie, mais évidemment, elle est fondamentale dans mon entrée à l'école, même si je n'étais pas entrée en tant qu'étude juive. Et donc, c'était vraiment, voilà. Ça, c'est une autre histoire. Je voudrais en revanche, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, je voudrais aussi mettre l'accent sur Sylviane, pas seulement directrice de thèse, mais aussi véritablement avec une ambition marquée en ce qui concerne la formation des étudiants, puisqu'on n'a pas parlé du master des études juives. On a tous, on participe, moi pas cette année, mais on participe tous, je crois, sur la place parisienne à peu près, au cours du tronc commun d'initiation à l'histoire des Juifs. Et quand on voit la liste, c'est assez parce qu'on est un par cours à peu près. Donc, combien on est? 25. Donc, les spécialistes de près ou de loin, des histoires des Juifs apparaissent dans ce cours de tronc commun. Donc, voilà, je voulais quand même mettre l'accent sur cette ambition qui est pas simplement celle d'un directeur, directrice de thèse qui est déjà beaucoup, mais qui va au-delà, qui s'intéresse au masterant, qui s'intéresse justement à la spécificité, à promouvoir la spécificité de la formation pour les études juives. Et donc voilà. Donc ça c'est voilà. Bravo. C'était quand même voilà. Je voulais le dire parce qu'on a beaucoup parlé de tout ce qu'elle a apporté d'un point de vue scientifique, mais à l'école c'est aussi effectivement Sylviane Goldberg. Donc sinon quelques pistes justement pour lancer un petit peu, pour te lancer puisqu'on t'a pas écouté. Je vois qu'évidemment mon école se demande ce que je vais sortir. Non, quelques pistes qui sont liées en fait aussi à certaines phrases que j'ai picorées de ci de là depuis ce matin. Et auxquelles j'avais pensé, il y en a, je t'annonce comme ça, tu ne t'effraies pas. La première, c'était évidemment sur que tu reviennes sur jonction histoire interne, externe des Juifs, le désenclavement juive. Je vais revenir, je vais donner quelques éléments. Histoire des Juifs, histoire juive, histoire générale des Juifs, historien du, enfin Juifs qui font l'histoire juive. Donc toutes ces éléments là. La question de l'interdisciplinarité, on est en ce moment à l'école, tout sur un questionnement justement du renouveau de l'interdisciplinarité, puisque à l'école, c'est une interdisciplinarité qui est faite à partir de l'histoire. On pense que c'est une évidence, mais c'est pas forcément une évidence. Elle pourrait être faite par une autre discipline, et j'aurais voulu t'interroger là-dessus peut-être. Une de tes phrases qui a été donnée ce matin en introduction par les organisateurs, dont tu parles de l'historien qui s'immerge dans une culture qui n'a plus cours. Ça c'est une autre, ça lié à une autre question que l'on avait posé. Il y a une autre question, la quatrième, j'ai bientôt fini. La place du comparatisme, ça c'était introduit notamment par Nancy Green, et j'y ai pensé justement par rapport à ton propre travail. Et enfin, dernier aspect, plus en élargissement, sur la diffusion, visibilisation, vulgarisation des études juives et ton engagement. On a parlé des études juives, qui ont un rôle politique à jouer tout à l'heure, et effectivement de la demande sociale. Et c'est vrai, quand on voit tes œuvres, on voit qu'il y a ce souci d'aller vers le public, de diffuser justement de manière claire. Et on le voit dans l'ouvrage, on en a parlé, Vivien en a parlé tout à l'heure, mais enfin, il faut quand même, hein, je pense que tout le monde l'a vu, la somme de cet ouvrage-là, qui est extrêmement clair. Si on le voit, il est extrêmement clair, très agréable. En plus, tu as parlé tout à l'heure des élèves de Créteil. Donc, évidemment, c'est là, voilà. Juste pour lancer peut-être la première question, on parle désenclaver les approches, réintégrer les individus dans les sociétés majoritaires. Alors, tu as parlé de ton expérience à Carré de Fage, que je ne connaissais pas. Donc là, peut-être, si tu peux en dire quelques mots, justement, de cette histoire par le bas, de ce que ça représentait ce moment ensuite dans ta trajectoire. Et puis, peut-être aussi, c'est vrai qu'extérieurement, on a vraiment quand même l'impression qu'il y a une oscillation dans tes œuvres et Thomas l'a évoqué à l'instant avec ton départ justement de cette histoire par le bas, de la confrérie à Prague, à ensuite l'histoire des thèses, où tu oscilles entre l'histoire socio-religieuse des individus, des juifs, donc effectivement une histoire sociale auquel on est plus habitué, et l'histoire des textes, on travaille sur le temps, sur les notions transversales. Et en lien avec ça, évidemment, l'oscillation texte-individu, on retrouve donc ce que je t'avais dit à l'instant, c'est effectivement, et c'est le postulat de justement de montrer en quoi l'histoire des Juifs éclaire celle des sociétés qui les accueillent, les sociétés dans lesquelles elles sont. Donc c'est pas simplement en quoi le contexte éclaire la vie des Juifs, mais aussi comment justement cette histoire, d'une certaine manière décentrée, inhabituelle. Hein, j'ai un de nos collègues qui m'avait dit, c'est intéressant votre article, on voit la France de manière tout à fait différente. Mais, donc voilà, de la réintégrer. Et c'est vrai, quand on voit le titre Histoire juive de la France, c'est vraiment, enfin, c'est l'impression que ça donne.
C'est l'idée.
Voilà, c'est l'idée de, on parlait des marges, c'est l'histoire du centre par ses marges. Hein, donc c'est ce que j'avais déjà préparé, mais Thomas l'a soufflé, mais c'est vraiment ce qui ressort de ton œuvre. D'où la question, et là j'ai revu à ce moment-là. Ton article, le dossier des Annales en 94 et ton introduction qui était justement sur histoire juive, histoire des Juifs, etc. Peut-être que si on a le temps, j'en parlerai à la fin pour voir ensuite que tu poses énormément de questions en 94. Je voulais savoir ce que tu en disais 30 ans après. Donc voilà. En gros, comment tu vois cette, il y a beaucoup de questions en une, hein, mais oui. Comment tu vois, excuse-moi, tu choisis ce que tu veux, mais comment tu vois cette apparente dichotomie entre histoire juive, histoire des Juifs? Histoire généraliste, comme je suis moi, comme tu sais, qui travaille accessoirement parfois sur des juifs, et l'histoire juive proprement dite. Et j'ai l'impression que toi, on a l'impression d'une dichotomie parfois chez certains, et toi, j'ai l'impression, c'est pas pour te flatter, non, que tu as réussi à la concilier.
Mais parce que je ne pense pas autrement.
Vas-y.
À toi.
De fleurs aussi.
Alors, moi, j'ai eu la chance, alors on va encore à nouveau évoquer le terme moment. J'ai été étudiante à un moment et en un lieu où il y avait tout à faire, en gros. L'histoire des Juifs n'existait pas comme un domaine, elle était reconnue par personne, et surtout pas dans cette belle institution, je dois dire. Et mon parcours personnel, donc j'ai évoqué tout à l'heure Vincennes, m'avait permis de bricoler moi-même, en fait, mon domaine, ma manière de travailler, ma méthode, c'était à la mode aussi. Je dois dire, à la fin des années 70, on bricolait beaucoup. Le terme a encore été utilisé par Claire tout à l'heure. C'est aussi ce que je conseillais à mes thésards. Bricoler, lisez tout. Si vous voulez comprendre une situation, eh ben, il faut voir la peinture, il faut lire la littérature, comprendre ce qu'il y a dans les poèmes, s'intéresser à la presse, mais avoir une vision globale. Maintenant, les Juifs, en tant que phénomène d'isolant, alors non, je n'ai jamais perçu les Juifs comme ça, bien que j'ai moi-même vécu un peu dans un isolat par mon éducation personnelle, mais en même temps, pour moi, il était clair que les Juifs ont toujours vécu dans des environnements, et je pense que j'ai monté, en fait, cette méthodologie en faisant ma thèse. Parce que justement, j'avais choisi de travailler sur... quelque chose que j'ignorais complètement. J'aurais plutôt eu tendance à travailler sur les Juifs de la zone de résidence, comme ça, par ma propre histoire. Mais j'ai choisi de travailler pour des raisons essentiellement d'archives, Mathias, sur la communauté juive de Prague, parce que c'était la seule communauté qui avait connu pratiquement une continuité historique, alors du début à la fin, où est le début, où est la fin, on ne sait pas, mais disons dans les bornes que moi-même j'avais fixées au début et à la fin. Alors les bornes, c'était la formation des villes, hein. Donc on remonte très très loin à l'idée que les villes vont se former, et donc ça c'est le début. Et la fin, pour moi, c'était l'émancipation des Juifs, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. C'est la manière dont j'ai plus ou moins conceptualisé à l'époque la notion d'études juives, qui me faisait mettre en dehors des études juives le moment où les Juifs entraient par les lois de l'émancipation, ça tous mes étudiants se le sont entendus rebattus, maintes et maintes fois, dans les lois générales. C'est-à-dire qu'il m'a toujours semblé que du moment où les lois générales s'appliquaient aux Juifs, c'est-à-dire plus le Talmud, plus la Halakha, eh bien, il fallait les considérer comme des individus normaux. Seulement, en travaillant sur la communauté de Prague, je me suis aperçue que si on regardait cette histoire dans la longue durée, la communauté juive de Prague n'avait rien à voir avec celle de Francfort, rien à voir avec celle d'Odessa ni de Varsovie. Elle était complètement emprise dans l'histoire de Prague elle-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tisser, en bricolant, donc, ma propre méthodologie. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était un véritable matériau heuristique, parce que ça, on peut le reproduire pratiquement partout. Et on peut même voir ça, d'ailleurs, il y a eu des travaux monographiques qui ont été faits sur Odessa, sur Lublin, des travaux qui sont devenus des classiques. Mais si on regarde la manière dont la vie de ces Juifs est différente de celle des villes voisines, on voit bien que c'est de l'histoire de Lublin ou de la ville d'Odessa qu'il s'agit. Donc, c'est vraiment l'idée, et ça c'est quelque chose en plus que j'ai creusé pendant mes années berlinoises aussi. Après avoir fini de dépouiller les... Enfin, pas fini, mais au moment où les archives ont été complètement ouvertes en Russie, en Union soviétique, est-ce qu'on l'appelait encore en 95 Union soviétique? Oui, hein, je crois. Oui, hein. 95, absolument. Ouais. Donc, après avoir vu les archives s'ouvrir, après avoir ouvert moi-même des boîtes qui n'avaient jamais été ouvertes depuis 70 ans, je suis partie à Berlin. Donc sur une délégation de l'école, on m'a demandé d'essayer de faire travailler les chercheurs des pays de l'Est avec les chercheurs des pays de l'Ouest. Et là, j'ai vraiment creusé l'idée que l'histoire des Juifs permettait de comprendre à chaque fois les histoires locales, et notamment ce que j'appelais à l'époque les ismes. C'est-à-dire que tous les ismes du XXe siècle, si on regardait comment les Juifs s'y étaient impliqués, eh ben on pouvait retracer ce que les autres aussi avaient fait et voir comment ça s'était développé. Donc c'est un peu comme ça que j'ai développé cette méthode qui me fait à chaque fois comprendre qu'on peut pas détacher les Juifs de leur contexte. On peut reprendre par exemple... Des événements très marquants pour l'histoire générale, la guerre de 30 ans. C'est un événement que tous les enfants européens apprennent à un moment ou à un autre. Eh bien, moi, en étudiant l'histoire des Juifs de Prague, j'ai pu mesurer l'implication des rabbins de Prague dans les événements, de voir comment les Juifs eux-mêmes y récitaient des prières particulières pour l'un ou l'autre. J'ai vu, des belligérants. J'ai pu voir aussi comment les Juifs et les chrétiens s'entraidaient tout le temps. Hein, à chaque fois qu'il y avait des pillages d'un côté, ça y passait de l'autre côté. Donc, ça montrait complètement que les grandes lignes sur lesquelles on avait construit les grands schémas de l'histoire des Juifs. Donc, moi aujourd'hui, j'englobe dans l'histoire, alors nationaliste. Enfin, il y a eu un moment où on a eu besoin de construire une histoire nationale. Ce moment correspond à la Wissenschaft des Judentum, correspond aussi au moment de la création du YIVO, correspond à l'histoire, à l'historiographie d'Israël. C'est un moment où les Juifs avaient besoin de ça. Maintenant, moi, je suis arrivée à un moment où tout ça existait déjà. Donc, on avait peut-être plus besoin de n'utiliser qu'une histoire à des fins nationales, mais de comprendre de manière beaucoup plus large, beaucoup plus étendue, comment on s'était détaché de tout ça. Mais pendant toutes ces années, il n'y a pas vraiment d'oscillation. Alors peut-être qu'on peut voir l'oscillation dans le titre des travaux, mais en fait, j'ai eu l'impression moi-même de poursuivre toujours la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un Juif est un Juif et pas son voisin, par exemple? Qu'est-ce qui fait de l'intérieur que moi je vais me penser en juive et pas en protestante ou pas en orthodoxe? Alors ça passe effectivement par l'éducation, par la transmission des textes, tu vois. Il y a quand même des manières, je dirais, chrétiennes, en général, de voir le monde. Et il y a aussi des manières juives de voir le monde. Et donc, en travaillant sur les attitudes devant la maladie et la mort, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'il n'y avait pratiquement pas de différence, sauf dans les textes. Et ça, ça donnait vraiment une dichotomie extrêmement importante entre ce que moi, je pouvais produire et ce que mes collègues pouvaient produire. Parce qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. Ils faisaient de l'histoire des textes et moi, je parlais des gens, des êtres humains. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais en tout cas, j'ai essayé. Je ne peux pas répondre à toutes tes questions, il faut que tu les reposes, une par une.
Non, non, mais je pense que tu as, enfin, sauf si par rapport à ce que, on verra de toute manière, l'intérêt aussi, on s'était dit avec les organisateurs, c'est comme le programme était très dense, oui. Il y avait beaucoup à dire, donc moi, je vais vous poser quelques questions et ensuite, on laissera à la salle, donc s'il y a des questions. Mais en revanche, peut-être, je vais rebondir, par rapport à l'autre que je t'avais donné, tu vois, je te perturbe. Oui. Oui. Parce que c'était intéressant, tu dis justement qu'on compare avec les chrétiens, etc. Je repensais à ce qu'avait dit Nancy, c'est par rapport au comparatisme dont je parlais. Je repensais à ce que disait Nancy, qui elle a vraiment, de manière vraiment très très claire, été dans le comparatisme. Je repense aussi à justement à cet article, cette introduction au dossier des annales de 94, où à un moment, alors je vais pas lire entier, il y a un autre paragraphe que je voudrais lire, mais il y a un moment à la fin où tu dis. Mais toutes, tu parles des interventions hein, qui sont nombreuses, hein, des contributions, tentent à repousser les limites de ce qui est considéré comme spécifique par d'autres approches. Et donc, effectivement, tu continues. Donc, justement, toi, par rapport, puisque toi-même, tu as donné des éléments de comparaison, comment tu la vois dans ton œuvre? Est-ce que tu as l'impression, parce que moi, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'aussi présent, affiché, ça rentre évidemment dans ta perspective, mais si on compare par exemple les travaux de Nancy, où c'est vraiment dans le titre, c'est vraiment la comparaison, toi comment tu l'aperçois justement cette comparaison, puisque de fait,
je cherchais plutôt, enfin je cherchais pas la comparaison, venait se faire d'elle-même, mais c'était pas du tout l'idée, moi l'idée c'était plutôt vraiment de faire de l'histoire des Juifs normale, entre guillemets, c'est-à-dire sans apologie, sans théologie, en sortant de ces chemins balisés qui construisaient les Juifs comme étant des êtres tout à fait hors du commun. Moi, au contraire, je voulais montrer qu'ils étaient comme tout le monde. Et donc, si je prenais les attitudes devant la maladie ou devant la mort, ou dans le cadre d'une épidémie de peste, ce qui m'importait, c'était de montrer qu'ils réagissaient exactement comme les autres, qu'il y avait les mêmes structures sociales qui sont développées en monde juif et en monde non-juif, plus ou moins dans la même synchronie. L'exception n'est pas toujours la règle, mais on a absolument voulu écrire une histoire comme ça. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis toujours intéressée, et là, l'exemple de 94 en est peut-être une bonne illustration, à la manière dont on écrit l'histoire. Parce qu'il m'a toujours semblé, alors ça c'est le produit des années Vincennes, la manière dont on écrit l'histoire la fabrique en même temps. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris, je pense, dans mes premières années d'étudiante, quoi. On fabrique son objet dans le langage de l'école, mais c'est vrai, complètement. On crée l'événement en le sortant d'un obscur fichier, on en fait une thèse et hop, l'encyclopédie, tu vois. C'est le même principe. Donc, les manières de penser et d'écrire l'histoire, et je pense que penser est un terme extrêmement important dans la manière dont on fait de l'histoire, pas seulement des Juifs, mais n'importe laquelle, parce qu'il y a déjà en fait tout un outillage mental, scientifique et méthodologique qui est derrière, juste dans la pensée de son objet.
Merci. Et juste parce qu'on parlait, on parle de ta méthode et la manière dont tu l'as construite, etc. Et de piocher. Je reviens à la question des frontières disciplinaires. Mais voilà, donc effectivement que tu fais œuvre d'ethnologue d'une certaine manière, et c'est vrai que donc comme je disais tout à l'heure, on a toute une réflexion sur l'interdisciplinarité où on se rend compte qu'effectivement à l'école, par la forte présence des historiens, c'est une interdisciplinarité qui de fait se construit beaucoup à travers l'histoire, et l'histoire qui va aussi beaucoup les autres disciplines, qui se permet d'une certaine manière, si on voit par exemple aux sociologues, aux anthropologues, ou les notions d'école de vocabulaire spécifique à chaque école de sociologie, d'anthropologie est relativement close. Et donc, les historiens qui arrivent dans cette intersubjectivité piochent d'une certaine manière, de manière parfois perçue comme hétérodoxe. Est-ce que tu penses que ton interdisciplinarité en tant qu'historienne et historienne des Juifs a quelque chose de spécifique? Comment tu la conçois? Est-ce que voilà, ça, peut-être ça te parle pas, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose pas mal en ce moment, de cette manière de faire l'interdisciplinarité, sachant qu'effectivement, dans ton cas, je répète juste, le fait aussi d'utiliser ces notions transversales, la maladie, la mort, le temps, etc., effectivement, aide d'une certaine manière aussi à pousse à cette interdisciplinarité, en tout cas avec, en tout cas, extérieurement.
Absolument, mais en fait, tu as un peu répondu déjà à la question que tu posais.
Je voulais poser d'histoire.
Je pense que c'est l'objet qui définit à la fois les méthodes et la réflexion autour de l'objet lui-même. Et je ne pense pas que l'unique référence à un système de méthode puisse permettre de réaliser une recherche réussie ou complète. Ou achevé, je ne sais pas, je laisse choisir le mot. Mais il me semble que chaque objet de recherche définit sa propre interdisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, bon, ça se construit en fait pendant les études. Je crois que c'est au moment où l'étudiant... Et l'école peut être un formidable endroit pour ça. Parce qu'on trouve justement ici la possibilité d'aller piocher. D'ailleurs, mes étudiants ont tous entendu ça. Je présentais l'école comme un supermarché du savoir en disant « mais allez partout ». Il y a de la philo, il y a de la sociologie, il y a des gens qui travaillent sur des tas de choses. Vous n'êtes pas obligé, au contraire, sortez de votre domaine. Pour comprendre comment faire, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Et je crois que l'interdisciplinarité en histoire, elle se fabrique. Alors, à l'époque où moi j'étais étudiante à l'école, c'était la méthode quantitative. Moi, j'ai toujours détesté la méthode quantitative, mais parce que je sais pas compter. C'est un de mes travers, mais j'ai quand même creusé mes petits trous dans les fiches Bristol qu'on nous donnait. J'ai alimenté tout le sous-sol, là où nous sommes, c'était un énorme ordinateur à l'époque. Et donc, il fallait parler la langue de la bête. Là, j'ai oublié, on nous apprenait trois langages basiques pour pouvoir faire des méthodes quantitatives. Mais en même temps, on pouvait entendre tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on pouvait entendre à la fois des ethnologues, à la fois des gens qui faisaient de la philo, des gens qui faisaient de la sociologie, et on pouvait sortir aussi, je dirais, du cursus obligatoire. Je crois que la question du cursus obligatoire, c'est peut-être ce qui est le plus gênant dans l'idée de construire, des cerveaux ouverts et prêts à innover eux-mêmes. Parce que plus on inscrit les gens dans un cursus intellectuel, je crois que plus on leur ferme des portes. Et donc l'interdisciplinarité, je pense que c'est effectivement peut-être la clé de la manière de produire des innovations intellectuelles.
Peut-être juste par rapport à la peut-être d'éclaircissement, parce que donc il y a cette phrase qui est...
Je voudrais ajouter quelque chose sur l'interdisciplinarité, c'est que, en fait, j'étais pas essentiellement française. Et on n'enseigne pas les mêmes objets de la même manière ailleurs. Et j'ai toujours su ce qu'on faisait ailleurs, parce que bon, j'ai passé beaucoup d'années en Israël. En Israël, on n'enseigne pas l'histoire de la même façon, ni la sociologie, ni l'ethnographie, etc. Aux États-Unis non plus. Et donc, le fait de savoir qu'on peut faire autrement... c'est déjà un bon outil aussi.
Oui, ça me fait penser, ouais, après je te poserai la question, mais justement à propos de ce que tu dis là, cette fameuse introduction au dossier, mais je trouve intéressant parce qu'il y a une dimension programmatique que tu donnes. Alors c'est un peu long, donc je ne vais pas tout le donner, tu poses un certain nombre de questions. C'est à la fin où tu as introduit donc, les différents papiers, où tu dis, donc tu parles de l'historiographie allemande sur les Juifs, est-ce que les objectifs ont été dépassés, dans quelle mesure l'impact est encore perceptible, tu dis alors qu'en est-il des savoirs juifs d'antan et comment les utiliser ou les comprendre, à qui s'adresse-t-elle, par qui est-elle faite, dans quelle direction se dirige-t-elle, s'agit-il d'une histoire vivante qui a conquis donc sa légitimité, Et donc là, tu parles justement d'interdisciplinarité parcourue par plusieurs disciplines recoupant l'histoire, la philosophie, la mystique, la linguistique, la sociologie, etc., etc. Les études forment un ensemble dont il n'est pas aisé de circonvenir le contenu ou de faire l'économie. Comment les scientifiques ordonnent-ils aujourd'hui ces savoirs? Et puis encore, que faire? C'est-à-dire où ranger et comment analyser la somme des savoirs traditionnels proprement juifs? Et là, tu termines par ce que tu viens, en fait, somme-t-il de dire. Le fait que ces travaux soient menés en Europe, en Israël ou aux États-Unis, donc dans des contextes institutionnels différents, par exemple en département d'études juives, en université juive ou en milieu ouvert, en département généraux, influent-ils sur certains aspects des recherches? Donc là, c'était la question que tu posais en 94. Maintenant, donc, quelques années après, justement, j'en profite parce que tu m'as permis de faire le lien, c'était pas dans mon ordre. Qu'est-ce que tu en penses avec justement l'expérience, peut-être, d'avoir été dans ces différents pays, de voir ce que c'est devenu, comment, voilà.
En fait, il y a un phénomène très intéressant, intéressant au sens littéral du terme, qui s'est développé dans les études juives, c'est que finalement la yeshiva a été remplacée par l'histoire. Par l'histoire des textes surtout, par les manières de faire de l'histoire aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve surtout en Israël, un peu moins aux États-Unis, mais quand même. C'est-à-dire, il y a donc quelque chose justement de l'utilisation des savoirs d'antan qui s'est transmis à travers les manières de faire aujourd'hui de l'histoire des Juifs. Alors, ce qui est souvent fascinant, c'est quand on voit apparaître à l'intérieur, bon, certains vont reconnaître de qui je parle, d'autres pas, mais parfois on voit apparaître des travaux effectués par des spécialistes de responsa, donc c'est l'étude de textes, vraiment les textes de la littérature rabbinique, et puis soudain il y a des archives en latin, qui apparaissent dedans et qui permettent d'analyser de façon complètement différente la réponse rabbinique à laquelle on s'est attaché. Et donc ça, il me semble que c'est un phénomène qui n'existait pas, en tout cas poussé à ce point, je dirais, il y a un siècle et demi. Si je regarde la manière dont les premiers savants de la Wissenschaft ont opéré. Alors eux, ils avaient moins recours aux archives, bon, pour des raisons que l'on peut comprendre. C'était pas numérisé à l'époque, fallait se déplacer, c'était beaucoup plus compliqué. Mais ils faisaient pas toujours forcément le lien entre l'archive, donc non juive, et le texte. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une dichotomie entre ceux qui travaillaient sur les archives, il y en avait bien sûr, et ceux qui travaillaient sur les textes. Et donc la vision de l'histoire était complètement différente. Et je vois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de, comment dire, d'instrumentalisation justement de ces savoirs d'antan qui n'existaient pas, ou peut-être que je ne les avais pas vus à cette époque-là.
Une petite question, après je laisserai la parole à la salle. Quand tu dis, il y a cette cité ce matin, que l'historien donc, s'immerge dans une culture qui n'a plus cours. Donc ça m'a interrogée. Est-ce que c'est une manière aussi d'appuyer le fait de contrer une forme, peut-être c'est moi qui surinterprète, d'homogénéisation justement en disant, ben voilà, c'est toujours la même chose, donc on regarde ce qui se passe maintenant et c'était la même chose avant, ou pas du tout. Est-ce que c'est simplement, tu postules une anthropologie régressive? C'est ça, très bien. Ben donc voilà, j'ai ma réponse. En revanche, un autre pilier, je dis, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien l'école, on a donc ce pilier d'interdisciplinarité, pardon, j'y arrive, et l'autre, c'est les aires culturelles. Mm. Et donc, études juives, est-ce que, à ton sens, ça fait partie donc de ces aires culturelles. Voilà, donc on
oui
fait...
Et oui et non. Oui et non. Ça fait partie d'une aire culturelle parce que ça nécessite la mise en œuvre d'une quantité de savoir spécifique. Donc en ce sens, oui. Mais non, parce que... alors bon, je reprends le poncif, des Juifs, il y en a partout. Hein, ils ne sont pas limités à l'ère occidentale, ils ne sont pas limités non plus à l'ère orientale. Mais en même temps, pour pouvoir s'intéresser intelligemment et réaliser un travail qui puisse être un travail solide sur des Juifs de telle ou telle sphère culturelle, il faut maîtriser un savoir qui est un savoir juif. Qui est pas le même en fonction des pays auxquels, enfin desquels on veut traiter, quoi. On a besoin de l'arabe si on veut s'intéresser aux juifs du Maghreb ou des pays orientaux. On a besoin du latin si on veut s'intéresser au monde occidental médiéval. Mais à partir du moment où on est dans l'espace contemporain, je dirais que ces frontières-là s'effacent. À mon sens, les Juifs ne sont plus une ère culturelle. À ce moment-là, il n'y a aucune raison de d'en faire une ère culturelle. Enfin, c'est mon avis qui n'engage que moi. Hein. Il peut y avoir des gens ici qui pensent tout à fait le contraire, et je respecte cette opinion, mais pour moi, ce n'est plus du tout la même chose. Maintenant, que des gens utilisent des formes de pratiques juives me semble ne pas justifier qu'on les insère dans une ère culturelle. Parce qu'il y a aussi des pratiques chrétiennes, des pratiques protestantes, et on n'en fait pas une ère culturelle pour autant.
Ma dernière question, mais je vois qu'après celle-là, peut-être cette question-là devrait réagir. Je vois que Mathias réagissait. Dans ce côté, peut-être la question dont je parlais, visibilisation, vulgarisation, sans la connotation pour avoir ce terme, des études juives, parce que c'est vrai que on voit cet ouvrage-là, qu'on voit le dictionnaire encyclopédique dont on par lequel j'ai commencé. Mathias a parlé de la demande sociale. Perrine a parlé du rôle politique du judaïsme, et c'est vrai que tu as parlé toi-même de Créteil. Je me souviens de conversations au moment de l'actualité, il y a plus d'un an maintenant, où tu prenais l'organisation de débats, où tu expliquais ce que, justement, tu expliquais aux étudiants qui connaissaient mal le Moyen-Orient et ce que ça apportait d'explication. Donc, c'est vrai que l'image que moi j'ai de toi, c'est d'une historienne engagée. Pas forcément, alors c'est pas forcément l'affaire Dreyfus et cela, etc. Mais c'est quand même, effectivement, on sent que pour toi, c'est vraiment, voilà, il y a un devoir, quelqu'un, c'est dans l'intention d'anglais, j'ai pas noté, le devoir d'un travail civique. Enfin, il y a vraiment une notion pour moi de, pour toi, c'est, voilà, tu as des ouvrages et en même temps, tu as ces ouvrages qui est ton action, les étudiants, voilà, les élèves, etc. Donc, est-ce que tu peux dire que
cette percée des frères? C'est vrai. Dans la mesure où moi-même, j'ai débarqué dans un désert, je dirais, en ce qui concernait les choses sur lesquelles j'avais envie de travailler, j'ai eu envie de construire, justement. Et pour construire, bah, il faut des gens. Donc, moi, je dois dire qu'au fil des années, j'ai beaucoup appris hein, de tous les étudiants. Je crois qu'il n'y a pas un seul étudiant ou une seule étudiante qui ne m'ait pas appris plein de choses. Je ne sais pas ce que moi, je leur ai transmis. J'ai essayé de transmettre ce que je savais, mais je sais que eux m'ont énormément apporté par leur diversité, par leur propre questionnement. Et je pense que il y a trop de choses qui sont laissées à la fois dans les non-dits, dans la non-transmission, pour que on abandonne, je dirais, ça aux chiens, en quelque sorte. Et je crois que c'est aussi le rôle de l'historien, mais pas seulement de l'historien, du chercheur, tout simplement, qui arrive à accumuler un savoir quelconque, de le faire partager. Sinon, à quoi il sert ?
En plus.
Mm-hmm.